C'est avec grand plaisir que nous recevons eh bien, une voix qu'on aime bien avoir un mercredi sur deux, mais qu'on n'avait pas encore eue en 2023. Donc c'est encore l'occasion de dire bonne année, Marie.
Bonne année Marcus, bonne année à tout le monde.
Marie Lestis donc, qui nous a rejoint pour Mémoire de Festival. On va reprendre nos bonnes habitudes, c'est-à-dire qu'un mercredi sur deux, on évoque Harrod quand même. Il y a eu 10 noms qui sont tombés, ça va, ça va.
Oui, bah écoute, bien sûr que ça va, tout va bien.
En plus, c'est des gens plutôt élégants qui sont venus, qui savent bien s'habiller, ça tombe bien. Je pense à Biolay, évidemment, qui voilà, c'est un peu dandy tout ça. On va évoquer la mode.
Philippe de Coufflet.
Philippe de Coufflet, oui. Oh, oui, tiens, j'ai pensé très fort à toi quand j'ai vu cette annonce-là, et ça a l'air d'être quelque chose.
Ah oui, hein? Non mais c'était par rapport à la mode, je pensais à Philippe de Coufflet, mais on va en parler tout à l'heure, puisqu'on a exposé ses costumes,
ouais.
Les fameux costumes de Philippe Guillotel, ouais.
Et de Coufflet qui sera avec un spectacle où il y a un certain Arthur Satan, ça nous fait plaisir aussi. Alors Arthur Satan, il est plutôt en short, hein, donc c'est pas un king de la mode, mais c'est vrai que les costumes qu'on
mais
a pu voir...
c'est une forme de mode,
c'est vrai, je suis raciste.
Les vestimentaires, et on va en parler, des artistes qui se produisent sur scène ne sont jamais du hasard.
Alors c'est vrai qu'il y a des vrais dandys, et quand on parle de mode, parce que ça va être la thématique qu'on va commencer à aborder pour notre mini-série qui commence ce soir. Ouais, moi je pense à quelqu'un comme Brian Ferry. Ben, quand on pense Brian Ferry, on pense belle fringue, forcément, on pense beaux costumes. Entre autres, il y en a eu d'autres, mais on pense
ouais,
à lui.
Mais je vais dire, Marcus, ce qui a déclenché cette idée de parler de la mode, c'est le décès de Vivienne Westwood,
ah, oui.
Cette grande styliste britannique. Et j'ai été touchée parce que j'admirais vraiment cette femme pour son parcours. Et j'avais envie d'en dire un mot. Je ne suis pas une spécialiste de Vivienne Westwood, loin de là. Je suis juste une grande fan parce que cette femme, eh ben, elle a un parcours qui est complètement atypique. Enfin, elle était punk dans les années quoi, 70-75. Tellement punk qu'on peut dire qu'elle a fait partie du groupe Sex Pistols, puisqu'elle vivait avec Malcolm McLaren.
Le manager, oui.
Et le manager du groupe. Et c'est elle qui a créé tous les costumes des Sex Pistols. Car ce sont des costumes, ce n'est pas du hasard. Et la mode punk doit beaucoup à Vivienne Westwood, qui l'a, on peut dire, créée avec son copain Malcolm McLaren, jusqu'à d'ailleurs ouvrir une boutique à King's Road à Londres qui s'appelait dans un premier temps Sex,
ouais.
Et qui s'est appelée après Too Young to Die, traduction trop jeune pour mourir.
Voilà.
Et Vivienne Westwood, bah, elle a osé, c'était même plus de l'extravagance, c'était du punk, voilà, tout simplement. Elle a fait ce célèbre t-shirt avec le portrait de la reine d'Angleterre, bah, qu'elle avait tout simplement fermé avec une épingle, symbole de la mode punk, une épingle à nourrice.
Bah voilà.
Et ça, c'est une des œuvres, on peut parler d'œuvres de Vivienne Westwood très célèbre, mais elle s'est amusée, mais comme une folle, elle faisait des boutons de veste qui ressemblait à des sexes d'hommes, elle faisait des choses avec des os, avec des... Enfin, elle a tout fait, enfin, je veux dire, ce look qu'on a tellement vu, qui récupérait comme ça le merde, comment on appelle ça déjà, chez les Écossais, enfin bon...
Le kilt, le tweed, enfin pas le tweed, mais le kilt.
Ce n'est pas du hasard, c'est une création par une grande styliste, Vivienne Westwood, qui est décédée très récemment, qui après est devenue, bon, effectivement, une modiste de luxe.
T'es une lady, je crois qu'elle avait été un oubli. Je peux dire de bêtises, je suis pas sûr, hein, mais je me demande.
Mais voilà, je trouvais important de rappeler d'où elle venait, et puis peut-être de pointer ça justement sur le fait que rien n'est laissé au hasard dans le rock ou dans les musiques actuelles, ou etc. La plupart des artistes qu'on connaît font appel à des stylistes.
Ah oui.
Et donc je trouve ça important je pense à Alice Cooper par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce pantalon fuseau qu'il avait rayé noir et blanc. Je ne connais pas son styliste, mais ce n'est pas lui comme ça qui se dit ah tiens je vais mettre un pantalon, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je pense à comment il s'appelle avec l'album Patti Smith,
oui.
Avec son album Easter, quand elle arbore comme ça ce look androgyne qui était très nouveau, très révolutionnaire à l'époque, faut resituer à l'époque, elle dit des choses à travers ce choix, avec ce costume masculin, bon, la cravate des fêtes, elle affirme des choses. Donc les artistes, quand ils se produisent sur scène, à travers leur costume de scène, ils disent aussi des choses, ils donnent des messages.
Voilà. Bien sûr,
c'est ça que j'avais envie de dire. Effectivement, Brian Ferry, ben voilà, on l'a qualifié de dandy, ses fringues l'étaient aussi.
Je reviens quand même à Vivienne Westwood. Il faut que les plus jeunes d'entre nous, d'entre celles et ceux qui écoutent cette émission, se rendent compte que souvent, ils se rendent pas compte, mais ils doivent beaucoup à Vivienne Westwood quand ils ont un t-shirt l'été, par exemple. Parce que c'est la première à avoir mis, par exemple, des slogans sur les t-shirts. Exactement. C'est la première à avoir mis des grandes lettres, je sais pas, des portraits, même comme tu parlais de la reine d'Angleterre, etc. Aujourd'hui, il suffit d'aller dans n'importe quelle enseigne de prêt-à-porter. Voilà, c'est très courant, finalement, tout ça. Sauf qu'à l'époque, c'était extrêmement politique. Ça ne se faisait pas d'avoir un slogan sur un t-shirt. Vraiment pas, quoi.
Bien sûr que non, c'était révolutionnaire, n'hésitons pas. Mais d'ailleurs, la mode en France, en tous les cas, jusque les années 80, n'était absolument pas considérée comme une expression artistique.
Non.
C'est encore notre fameux Jack Lang qui l'a inscrit dans les œuvres, dans l'écriture artistique. Et merci, Jack.
Rien à voir avec celle qui sort des bouquins débiles. Bon, il fallait que je le dise.
Je sais pas, quand tu parles.
Roselyne, elle s'appelle, de son prénom. Voilà.
Ah oui, d'accord.
En tout cas, c'est pas ça parce que ça s'appelle.
Elle est super expo en ce moment, chez à Paris, au Musée des Arts Décoratifs sur les années 80. J'ai eu la chance d'y aller avec mes deux filles, qui sont des trentenaires, on va dire, pour résumer. Et elles se sont pris en pleine figure ce qui s'est passé dans les années 80, autant en termes de politique, bien sûr, mais de design, de ben justement, l'adoubement de la mode, enfin... vous avez tout fait dans les années 80, en gros, quoi. Si vous inquiétez pas, les jeunes, il reste encore plein de choses à faire. On va pas faire dans le rétro, ah, c'était mieux avant. Mais c'est vrai que ça a été énorme, quand même, ces années 80. Et dont, entre autres, le fait que la mode soit prise en compte comme une véritable expression artistique, au même titre que la sculpture, la peinture, etc. Et que le design, c'est pareil. Jack Lang l'a affirmé aussi. Toutes ces formes qui étaient considérées jusqu'alors comme de l'artisanat sont devenues des véritables expressions artistiques.
Mais on repense à Warhol aussi, hein, mine de rien, quand même, parce que, alors Warhol, on l'avait évoqué, parce que voilà, il est venu.
On l'a exposé.
Il a été exposé, en tout cas, à Rock, il est presque venu physiquement. Mais je repense à, un groupe qui aurait pu, après tout, arpenter les scènes de Rock, c'est les Talkinheads et des gens comme David Byrne, qui, voilà, eux, déjà affirmaient aussi par, des costards trop grands, d'ailleurs, des choses comme ça, des manières de s'habiller, et les Talkinheads étant aussi pas très loin de la Factory, tout ça, c'était aussi une manière politique d'affirmer quelque chose.
Mais bien sûr. Et bien sûr, c'est remettre en cause les codes. Mais quand je pense au Perfecto, au Santiago, enfin, la tenue typique du rocker, qui est donc, je rappelle, le Perfecto, les Santiago, le jean et quoi, on va dire le t-shirt blanc, bah tiens, avec un slogan de préférence, il n'y a certainement pas de hasard. Je ne sais pas qui a lancé cette mode du Perfecto, qui perdure d'ailleurs.
Oui. Ça coûte cher, un Perfecto de 9 jours d'ailleurs.
J'imagine, oui. Je sais pas, j'en ai pas. Mais comment ?
Mais oui, effectivement,
mais
c'est une mode
du cuir,
qui...
quand même.
C'est une mode qui perd. Et le cuir, mais ouais, rien que cette matière, le cuir, oui, bien sûr. Rien que ça, c'est rebelle.
J'imagine que derrière ça, il y a dû y avoir quand même un modiste, un styliste qui a lancé cela. Enfin, je veux dire, on s'inscrit tous, nous les citoyens lambda, dans des modes qui disent des choses aussi. Je veux dire, si on arbore tel ou tel type de vêtement, on affiche des opinions qui peuvent être politiques, qui peuvent être artistiques, mais on affiche des choses, bien évidemment. Et donc, les artistes, entre autres, prennent véritablement ça en compte. Plus près de nous, je pense à quelqu'un comme Yael.
Oui.
Dieu sait si elle met en avant ses choix de costumes de scène. Elle a travaillé, je ne sais pas, avec Castelbajac, avec Jacques Mus. Je veux dire, elle travaille avec des grands, mais elle donne aussi sa chance à des jeunes designers. Et c'est important. Et elle attache énormément d'importance, entre autres, Yael, à ses costumes de scène.
Et pour rebondir et pour être tout à fait dans le sens que tu nous évoques, Marie, aujourd'hui, il n'y a pas un seul artiste qui ne vend pas de ce qu'on appelle du merch. C'est pratiquement devenu aussi indispensable que de vendre du merch que de vendre un album aujourd'hui, parce que la musique, on peut la trouver un peu partout, que ce soit sur les plateformes, il n'y a pas besoin d'acheter l'album physique, c'est ce que je veux dire. Par contre, le merch, oui, c'est du physique, on peut, enfin voilà, il n'y a pas grand chose pour remplacer un t-shirt ou des fringues. Et aujourd'hui, c'est vraiment mis très très en avant. C'est-à-dire que non seulement ça fait partie de l'ensemble, mais c'est pratiquement devenu aussi important que la musique, quoi.
Oui, à travers... Enfin, en merch, on trouve essentiellement des t-shirts. Ah, si, des casquettes, parfois, des choses...
Oui, ouais, des vestes, des...
Ah oui, exact. Oui, oui, mais...
Des polos.
Mais c'est important que ce soit pris en compte, même titre que le disque ou le... Bien sûr, c'est un tout, un artiste.
On a évoqué le hip-hop ici, le hip-hop sans fringues, c'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, ce sont des codes vestimentaires très normés, très normés, on peut le dire. Oui. Mais on a la liberté, bien évidemment, nous, les citoyens lambda, de décliner à notre façon. Mais c'est sûr que si vous ajoutez une épingle à nourrice sur votre t-shirt ou sur votre chemise, vous affichez quelque chose, vous dites des choses.
Tout à fait, c'est cette affirmation que nous célébrons ce soir à travers, vous avez pu en voir hein, forcément en 40 ans vous avez dû en voir des beaux fringues, des belles fringues et des beaux costumes,
ça,
hein,
oui.
Franchement.
Mais les fringues ça peut aussi être une œuvre d'art à part entière, c'est-à-dire des objets qui se portent mais qui ne sont pas portables dans la rue. Et pourquoi je dis ça, c'est pour enchaîner avec la première exposition de mode qu'on a pu faire pour Art Rock, c'était en 1992 et c'était une compagnie de Saint-Pétersbourg, que Jean-Michel avait rencontré grâce à un monsieur dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle André Ginsburger, qui est un grand agent artistique, qui nous avait d'ailleurs fait découvrir Royal de Luxe. Et donc Jean-Michel et moi, on était restés en contact avec ce monsieur, et à un moment, il a suggéré à Jean-Michel de rencontrer cette Russe qui s'appelle Svetlana Petrovna, et qui existe toujours d'ailleurs, enfin en tant qu'artiste plasticienne, et elle avait créé le LEM. Ça veut dire le laboratoire expérimental de la mode. Et elle avait carrément fait un spectacle, une performance qui s'appelait Les œufs du mal, qu'on a reçu donc à ce qui s'appelait le CAC à l'époque, au Forum. Et alors là, c'était des choses. Mais en gros, son histoire, elle était étudiante en philo, et puis elle s'est intéressée à l'art, à la scène, etc. Et elle s'est particulièrement intéressée à la mode avec ce projet de créer sa propre ligne de couture. Or, en Russie, elle ne trouvait pas les étoffes qu'elle souhaitait. Donc, elle a pris des objets complètement hétéroclites autour d'elle.
Très bien.
Et elle a créé des costumes importables, bien évidemment, mais qui sont devenus des œuvres plastiques à part entière. Et on a vu à Saint-Brieuc, au CAC, à l'époque, et pendant un rock, une femme vêtue, certes, d'une tunique, mais avec une machine à coudre, une machine à écrire, pardon, devant elle. On a vu des gens avec, je ne sais pas, une passoire pour la cuisine, mais des choses très esthétisantes. Ce sont des objets, donc je viens de le dire, hétéroclites, mais de façon très esthétisante. Il y avait quoi, une dizaine de mannequins, comme ça, qui ont déambulé sur une musique très rock aussi. Qui avait été choisi par elle. Il y avait des jupes en pneus, il y avait des robes qui étaient agrémentées, décorées, on va dire, de pavés, il y avait des caleçons pistolets, il y avait des bas en zinc, enfin, il y avait des choses comme ça complètement invraisemblables.
Bah, Kouraban, nous... c'était un petit garçon à côté, alors.
Vraiment, oui. Et ça n'a jamais été montré en URSS, parce que ça a fait un gros scandale, parce qu'il y avait une dimension aussi très érotique.
Oui.
Et on appelait ça érotico-industriel, enfin, indus, comme on disait. Mais elle a fait sa tournée à travers l'Europe, et je me suis un petit peu renseigné pour préparer cette émission sur ce qu'elle devenait, et elle continue sa carrière, non pas dans la mode. Maintenant, elle a hérité d'un gros chat énorme, mais avec des dimensions absolument incroyables, et elle s'amuse actuellement à intégrer son chat, des photos de son chat, dans plein de peintures célèbres, de peintures classiques. Et je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil, parce que j'ai trouvé ça assez génial. Ça s'appelle Fat Cat Art. Et sachez que cette dame, donc Svetlana Petrovna, est venue à Saint-Brieuc.
Ouais, c'était dans le cadre de Art Rock, bien évidemment. C'est vraiment un compagnonnage aussi, parce que, à travers ce que tu évoques, c'est aussi quand même, d'abord, je le disais, un peu politique, tout ça, et puis c'est aussi une manière assez subversive, finalement, quand même, d'amener ce qui est très courant, c'est-à-dire on est tous un peu obligés de s'habiller, surtout en Occident, quand même, surtout ces temps-ci, il fait un peu froid. C'est aussi une manière, quand même, de détourner tout ça. Ça me fait furieusement penser au design, ça me fait furieusement penser, quand même, à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'artistique, mais de l'artistique subversif, je me répète, quoi.
Ah ben, c'est le subversif qui nous a toujours intéressés, ce qui dérange, ce qui interpelle. À travers ce genre de présentation, bien évidemment, on se regarde différemment quand on rentre chez soi. On se dit, tiens, comment je m'habille, tiens, comment on s'est habillé. Enfin, oui, on interpelle et on dérange les codes, oui. C'est pas tout à fait hasard si elle n'a pas été acceptée en URSS. Enfin,
oui, parce qu'ils sont assez puritains, souvent.
Ils étaient, en tous les cas, à l'époque.
C'est les soviétiques, mais les autres.
On a d'autres problèmes avec eux.
Exactement, exactement.
Alors, je suis fâchée complètement avec la chronologie, parce qu'en fait, la première fois qu'on s'est intéressé à la mode, c'était pas en 92, comme je viens de le dire par erreur, c'était en 1985.
Ah oui, c'est un petit peu avant, effectivement.
Et là, on a été saisis par... Il y avait des gens assez passionnants qui vivaient à Saint-Brieuc, il y en a toujours, des artistes, et il y avait ce pianiste Jean-Pierre Baudry, qui est décédé d'ailleurs depuis, qui s'inscrivait comme ça dans, enfin qui adorait Art Rock déjà d'emblée, dès 1985, parce qu'il s'inscrivait comme ça, comme nous, un petit peu à la croisée de différentes expressions artistiques. Et il nous a fait rencontrer un ami à lui qui s'appelait Daniel Martin Sendic. Et tous les deux, ils nous ont proposé de faire un simple défilé de mode, parce qu'on s'inscrivait justement dans cette nouveauté que la mode devenait expression artistique. Et on a bricolé avec eux, avec différentes personnes sur Saint-Brieuc, des photographes, des plasticiens, etc. Ils nous ont proposé un défilé de mode performance, avec de la musique donc composée par Jean-Pierre Baudry, puisqu'il était pianiste et compositeur. Et on a eu quand même des créations de gens comme Stéphane Placier, qui est devenu quelqu'un de très important, Claire Chiron-Puissant, et tout ça en 1985 au CAC de Saint-Brieuc, sans prétention, tranquille, mais je me souviens qu'on avait quand même bien dérangé aussi à l'époque, quoi.
Mmh. Mais ça vous aimait bien.
Bon, tu crois.
Alors je reviens un petit peu à parce qu'on n'a pas évoqué forcément encore la danse et tout ça, et forcément la danse, les chorégraphies, c'est aussi forcément de la mode. Je pense à Biancali tout simplement, ça fait partie intégrante aussi quand même, les costumes de tout ce qu'elle peut représenter en spectacle. Je dirais que les costumes sont presque aussi acteurs et danseurs et font, enfin ouais, voilà, s'il y a pas de costume, ça c'est pas la même chose, quoi.
C'est un des éléments, avec la lumière, avec la scénographie. Un des éléments, effectivement, c'est la mode, c'est la création de costumes, qui est un métier à part entière. Et oui, entre autres chez Biancali, oui, mais tout artiste qui se produit sur scène.
Je pense à elle parce qu'elle a un petit peu quand même aussi ouvert des portes à des créateurs, à des stylistes, parce qu'il y a des gens qui sont directement inspirés de son monde, parce que c'est vraiment un monde à part entière. Ça aussi, c'est quand même important, moi, je trouve.
Ah bah oui, de créer des filières, des filiations, bien évidemment. Mais je pense à une autre dame comme Agnès B, qu'on a reçue pour sa carte blanche en 2008. Là, pas par son côté styliste, quoique on en a beaucoup parlé, bien évidemment, avec elle. C'était via sa fondation, et elle s'est toujours intéressée au rock, elle s'est toujours intéressée aux musiques actuelles, et donc on avait fait toute une carte blanche à Agnès B. Mais ça manifestait aussi notre intérêt. C'était pas tout à fait un hasard que ce soit cette grande styliste française, bien évidemment.
Oui.
Plus tard et plus près de nous, il y a eu carte blanche, pas tout à fait, mais en 2015, donc on y va carrément, puisqu'on intitule Art Rock 2015 Hier à la mode.
Oui.
Et on accueille ce grand monsieur qui est Jean-Charles de Castelbajac.
Oui, pas rien.
Et Jean-Michel avait vu son spectacle qui s'appelle Fantôme à Lille. Vous savez, à Lille, ils font festivité, un grand festival, enfin bon. Et dans ce cadre-là, Jean-Michel voit Fantôme, où il y avait déjà le DJ Dr No, qu'on va retrouver à Saint-Brieuc. Et du coup, il prend rendez-vous avec Castelbajac, qu'il a reçu, et franchement, il n'a pas hésité un instant à reproduire ce spectacle, mais bien évidemment, il a dit « je le recrée spécialement pour Saint-Brieuc, parce que je veux prendre en compte qui vous êtes, le patrimoine culturel et artistique breton, et donc une véritable création, et nous allons faire un casting pour avoir des modèles, mannequins,
ouais,
qui soient des gens de Saint-Brieuc. Donc ça a été une aventure absolument sensationnelle à vivre. Il y a eu un casting, il y a eu une trentaine de jeunes femmes qui ont été choisies. On a fait ça au centre commercial des Champs, avec Jean-Charles de Castelbajac et ses deux fils d'ailleurs qui l'accompagnaient et qui l'accompagnent dans son business. Et ça a été très émouvant. Enfin, je veux dire, il y a eu plein de jeunes femmes qui se sont présentées. Et c'était vraiment impressionnant. Ils en ont choisi 30. Ils ne pensaient pas en choisir 30 d'ailleurs au début.
D'accord.
Ils tablaient sur une vingtaine et puis ils ont été tellement séduits. Puis autant faire plaisir à un plus grand nombre. Et ces jeunes femmes, elles ont eu le droit d'être habillées par Castelbajac, qui a fait des créations spécialement pour elles. Et bien évidemment, Jean-Charles de Castelbajac a tout de suite dit « je veux de la musique bretonne ». Enfin, pour moi, je ne peux pas faire quelque chose sans avoir de la musique bretonne. Et donc, on a fait appel aux Bagades de Saint-Brieuc.
Ah oui.
Je connais bien, c'est bien un membre à l'époque, Mathias, je vais le nommer, Michel Toutous, qui a longtemps été président d'ailleurs du Bagade. Et Michel a joué l'intermédiaire entre Castelbajac et le Bagade. Et ils ont créé une musique spécialement également pour ce spectacle-là, avec le fameux DJ Dr No, qui était quelqu'un de très proche de Castelbajac. Et donc ça a donné un spectacle assez surprenant en 2015. On s'en souvient parce que parce que le délire de couleur des costumes de Castelbajac, les femmes étaient super maquillées, certaines portaient des masques, elles brandissaient des lances pour certaines, et ça a vraiment été un événement, quoi, et pour tout le monde. Ça a été une impro, un peu. Je ne sais même pas s'ils avaient fait une vraie générale. Une générale, vous savez, c'est quand on fait une répétition la veille d'une première. Non, mais je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc c'était c'était fébrile, c'était fragile. Il y avait Jean-Charles de Castelbajac qui était au centre de la scène et qui dessinait avec un écran rétro. Comment on dit un écran qui nous permettait de voir ce qu'il dessinait au fur et à mesure du spectacle qui se déroulait. Et c'était très très émouvant, je trouve, de voir ces jeunes femmes costard-mauricaines avec Jean-Charles de Castelbajac.
Un festival, finalement, comme un rock, c'est aussi ça. Parce que ce que tu nous dis là, Marie, c'est que d'abord, Castelbajac, il faut se rendre compte, même si on n'est pas un grand connaisseur de la mode, ce qui est mon cas, hein, je m'en cache pas, forcément on connaît au moins le nom, c'est pas forcément les œuvres, mais on connaît au moins le nom. Il vient, il prend des personnes qui sont des habitants du territoire et il les sublime. Et finalement, c'est ça aussi, finalement, un festival tel que Arock, et particulièrement Arock, et je le dis pas pour faire du cirage de pompe ou je sais pas quoi, mais c'est aussi sublimer les uns et les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va dans un festival, on est des fringues aussi, quelque part. On va pas. On s'habille pas en tenue de ville, d'ailleurs, vaut mieux
bien
éviter
sûr.
En principe. Mais c'est aussi ça, c'est aussi se transformer, se sublimer, je me répète. Et ce qu'il a fait ce jour-là, c'est vraiment, je pense que les personnes qui ont participé à ce défilé, c'est un souvenir.
J'étais
à vie,
en train
quoi.
D'y penser. J'imaginais ces jeunes femmes qu'en 2015 qui ont défilé avec et pour Castelbajac. Waouh! Ouais. C'était très émouvant sur le coup. J'étais dans les coulisses avec elle et je voyais les larmes à la sortie de la scène, d'ailleurs, tellement.
Parce que c'est des moments fugaces, c'est très bref tout ça.
Oui,
ça dure pas longtemps, quoi.
Tant mieux, c'est ça qui est bien aussi.
Ouais, certainement.
Et j'imagine le souvenir que ça a pu créer chez elle. Et Jean-Charles de Castelbajac, après, on l'a retrouvé dans. On avait fait une sorte de. Comment on dit? Colloque, conférence. C'était pas une conférence, c'était débat au conseil départemental. Et il avait joué le jeu, il avait accepté de participer à cette rencontre. Et c'est, où il y avait Yael, entre autres d'ailleurs. Et puis il y avait aussi quelqu'un, mais le nom m'échappe, qui crée des tenues de travail. En Côte d'Armor, mais je suis désolé pour lui, mais j'aurais pu. Enfin, il y avait comme ça différents stylistes qui étaient autour d'une table, et puis nous, spectateurs, on assistait. Et dans l'assistance, il y avait plusieurs jeunes femmes, c'est très féminin, les métiers de la couture, du lycée Marie Balavène.
Ben oui.
Et moi, j'étais à côté d'elles pendant ces discussions, mais elles étaient super impressionnées de rencontrer Jean-Charles de Castelbajac, qui est d'ailleurs venu discuter un petit peu avec elles et tout. Elles étaient en formation de couture. Ça ouvre des perspectives énormes de rencontrer des gens comme ça, ou de rencontrer ce monsieur qui avait créé des tenues de travail.
C'était pas Dolmen.
D'Armor,
il y avait la marque Dolmen, en tout cas, qui était connue.
Il y a des choses assez originales en la matière. Et je me dis, mais c'est bien aussi qu'un festival permette comme ça d'ouvrir. Je ne dis pas que toutes ces personnes vont devenir soudain stylistes, quoique il est possible qu'il y en ait qui l'aient fait, mais au moins ça ouvre des perspectives, ça magnifie ce qu'elles sont en train d'apprendre, ça les embellit. Enfin, j'ai trouvé ça très très important et très bien que des festivals favorisent comme ça des rencontres aussi.
Et puis ça
inscrit. Il y a eu des rencontres dans d'autres sens. Castelbajac a témoigné pour le livre qui est sorti sur Arock. On lui a demandé de témoigner donc de cette aventure et il en garde un excellent souvenir. Et entre autres, il raconte que grâce à Arock, il a rencontré Fabien. Ça y est, je vais le louper. Ce musicien électro.
Flavien Berger,
merci. Et il précise qu'il est devenu un ami. Et ils se sont plus quittés. Et ils se voient toujours maintenant. Et c'est à Saint-Brieuc qu'il l'a rencontré. Et ça, j'ai toujours bien aimé aussi quand il y a des artistes qui se rencontrent. Grâce au festival Arock, ça aussi c'est bien.
Des festivals lieux de rencontre, bien évidemment, et Arock étant un festival majeur et aussi un lieu de rencontre. Quand même, furieusement, parce que le temps passe très vite, il nous reste quelques minutes à passer ensemble, Marie. On poursuivra cette discussion parce que je trouve qu'elle est passionnante. Aujourd'hui, finalement, quand quelqu'un comme Pascal Jaouen, au petit écho de la mode, poursuit ce travail-là.
Je suis allée la voir, cette expo. Ouais.
Mais aujourd'hui, finalement, c'est un petit peu, là encore, quelque chose qui est assez similaire dans la démarche. C'est-à-dire que Pascal Jaouen, il vient tout. D'ailleurs, il y avait des mouvements parce que. Il y avait des réductions budgétaires qui faisaient que des défilés gratuits n'auraient plus lieu, etc. J'espère que ça va pouvoir se reprendre, parce que la parenthèse est faite. Mais ce travail-là de proximité, de dire que c'est du haut niveau, c'est du très très haut niveau, mais c'est aussi accessible. Et puis on est encore là, je me répète, pour magnifier les personnes, pour les rendre belles, pour leur donner une aventure. C'est ce que vous aviez un petit peu insinué. Et aujourd'hui, eh ben, c'est cette idée-là, elle perdure, elle continue, quoi.
Ah oui, mais ce brodeur originaire de, si j'ai pas de mémoire, de Quimper. On a eu l'occasion de le rencontrer dans les années 80 avec Jean-Michel, mais il était tout petit, tout jeune, tout timide. Je veux dire, maintenant, c'est un grand nom, c'est le grand nom de la broderie en France. Et il est allé jusqu'à ouvrir une école à Quimper, l'école de la broderie. Lui, maintenant, il s'est retiré, peut-être pour question de retraite, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, hélas. Mais c'est quelqu'un qui a complètement renouvelé l'art de la broderie, qui l'a modernisé, qui l'a rendu plus contemporaine, tout en respectant énormément la tradition. Il s'en inspirait beaucoup. Et c'est absolument génial de se dire, voilà, un gars de la campagne du Finistère, je ne sais plus exactement de quel village il était, devient un des grands noms de la mode en France. Ouais, c'est beau.
Et continuer à venir en Bretagne présenter ses œuvres
et faire de la transmission
parce que c'est aussi une histoire de transmission, un festival après tout.
Ah bah oui, bien sûr, bien évidemment.
En tout cas, merci beaucoup Marie. On poursuivra cette discussion d'ici 15 jours.
Parce que j'ai pas tout raconté.
Bah ouais, il y a encore plein de choses à raconter forcément. Et puis on vous rappelle qu'il y a 10 noms qui sont tombés quand même pour le festival à Rock la prochaine. D'ailleurs, dans une semaine, vous avez rendez-vous avec Festivalet, Alice Boinet, quelqu'un que tu connais un petit peu, viendra présenter le festival, et en tout cas quelques noms, ces premiers noms qui sont tombés, dont Philippe Découfflé qui fait son grand retour. J'ai évidemment pensé à toi lorsqu'on nous a annoncé ça, et je pense que ça va être beau parce qu'en termes de costume, ce que j'ai pu en voir, c'est vraiment, vraiment pas rien.
Mmh. Petite précision, avec Philippe, il y aura sa fille sur scène.
Oui, c'est vrai, c'est
Louise
important.
Louise Découfflé.
À la basse.
Ça m'a touché aussi, ça, parce que à Rock est une histoire de famille, certes, mais j'aime bien aussi que Philippe vienne avec sa fille Louise.
Mmh. Et puis elle sera à la basse.
Oui, ouais. C'est une excellente bassiste, d'ailleurs.
Ah bon, oui, sinon, il ne l'aurait pas pris.
Ah bah non.
Ah bon, non. En tout cas, merci infiniment, Marie.
Merci à toi, Marcus.
À dans 15 jours.